contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Clémentine, Jean-Luc, David, bonjour.
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 Tout va bien ? Content de vous retrouver ? Vous n'avez pas l'habitude que je vous pose des questions.
Non, c'est ça. D'un seul coup, il fallait qu'on prépare.
Mais, et celui qui est avec nous aussi aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire. Bonjour, Gavin Clémentine.
Bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver, comme chaque après-midi sur Europe 1, pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui cependant ont un point commun. Aujourd'hui...
Ma mère...
Mais oui, Eddie, ta mère... Enfin, la leur, surtout. Ils ont fait de leur mère leur héroïne. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par celle dont on célèbre le 150e anniversaire de la naissance, à qui on va consacrer la première heure de cette émission aujourd'hui. Une féministe de la première heure, elle aussi, Colette, qui a fait de Sido, sa maman, l'héroïne d'un de ses romans. Puis lui aussi a raconté sa mère dans ses écrits, dans sa promesse de l'aube, surtout Romain Gary, à qui sa mère, pour qui il était tout, avait prédit qu'il serait le meilleur. Elle ne s'y est presque pas trompée, vous verrez. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, qui a non seulement fait de sa mère son héroïne, mais l'a carrément interprété lui-même.
Oui, Guillaume Gallienne a joué sa mère dans Guillaume et les garçons à table, et il a bien fait. Tellement bien fait qu'il a remporté un Molière pour sa version théâtrale et 5 Césars pour l'adaptation au cinéma qu'il a aussi réalisé. Je tâcherai de faire un au moins aussi bien pour son portrait, pour décrocher un 7 d'or.
Mais vous savez, les 7 d'or, c'est que pour la télé, pas pour la radio, Jean-Luc. Et en plus, pardon de vous décevoir, ça n'existe plus.
Mais genre de 7, je sais.
Ça n'existe plus depuis 93,
quelque chose comme ça. Quelque chose
oui, mais laissez-moi rêver, s'il vous plaît. Mais,
eux, en revanche, ils existent et on ne le sait que trop parce qu'ils sont assez bruyants, vous avez remarqué.
Oui,
hein,
je
Jean-Luc.
Trouve aussi.
D'abord, celui qui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent les siennes, faut bien le dire. David Castello-Lopez, de quoi vous me parlez ?
Les origines des mots de passe. Vous avez des mots de passe, on a tous des mots de passe.
MDP.
Ne pas confondre avec les FDP.
Avec les FDP qui sont assez différents. Voilà. Vous avez des mots de passe assez sympas, vous ?
Moi, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Je le faisais, parce que maintenant j'ai changé. Je mettais toujours un prénom, une date de naissance et... Et un slash, quoi. Il faut pas.
Oui, c'est moins bien. Je vous parlerai d'ailleurs de comment choisir des bons mots de passe.
Oui. Les origines est dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre. Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte dans les années 1850 et on parle à la découverte avec vous, Gavin Clemente Ruiz, d'une mère qui veille sur tous les Américains, enfin surtout sur les New-Yorkais.
Ouais, la fameuse statue de la liberté, hein, oui. 46 mètres de haut, ça fait grand pour une mère quand même.
Ouais. Elle a un pied qui fait 5 mètres.
Ouais.
Ça fait, c'est dur pour la chaussée.
Mais on va découvrir l'origine de cette statue.
Elle est.
Et pourquoi ? Pourquoi elle est là ?
Et comment elle est arrivée ? Comment elle est arrivée ? Elle était au parc Monceau d'abord.
Ouais, mais on va voir qu'elle a fait pas mal de chemin.
Elle a fait du chemin. Hein.
Comment il est en train de vous bousiller vos rubriques ?
Et vous savez qu'il y en a 5 dans le monde.
Il y en a une pas très loin de nous d'ailleurs, tout de suite. On peut la voir, je crois.
Devant le studio d'Europe 1. Et puis, on a une autre en Espagne.
Et il y en a une au jardin du Luxembourg.
Oui. Mais aïeux, quelle époque.
Voilà, merci, Gavin.
Voilà.
Bon, bah, merci.
Vous pouvez partir, Gavin.
On a fait le tour de la question. Ça sera... Non, en fait, mais aïeux, quelle époque. Ça sera tout à l'heure, vers 17h40. Et puisqu'on rend aujourd'hui hommage à Colette à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, Clémentine Portier-Keltenbach, vous nous emmenez carrément chez elle.
Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a pas mal de lieux sur lesquels on peut aller sur les traces de Colette, au Palais Royal à Paris, à Rosven, en Bretagne, en Corrèze, au Château des Jouvenelles ou même à Cannes. Mais le lieu qu'elle a aimé par-dessus tout, et oui, c'est son village natal, Saint-Sauveur en Puisaye, en Bourgogne. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui.
Et Capranche, vous avez écrit un quiz spécial Colette aussi, Jean-Luc ?
Exactement, avec... Avec un problème de voix.
Avec ça, c'est difficulté.
Ça s'est entendu. Là, il s'est passé quelque chose. Voilà. On a hésité à le dire.
Il y a une présence.
Je sais pas si c'est passé.
Colette était en toi.
Non, exactement. Avec toute la rédaction d'Historiquement Vôtre, les auteurs d'Historiquement Vôtre, le rédacteur en chef d'Historiquement Vôtre et les stagiaires d'Historiquement Vôtre.
On a l'impression que ça fait un monde fou.
Bah, exactement. Nous avons décidé de faire une réunion et à la fin, on s'est envoyé des mails. Une semaine après, on a décidé à l'unanimité, moins une voix, que dans cette première heure, spéciale Colette, on allait faire un quiz spécial Colette.
Ah, j'avoue que je suis très impressionné. Hein. Et qui est la personne qui voulait pas, c'est vous ?
C'était quelqu'un de l'entretien de Historiquement Vôtre. Voilà.
Pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, Historiquement Vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Elle est une figure littéraire et artistique incontournable de la première moitié du XXe siècle qu'elle a marquée à jamais de son talent et de sa modernité. Je vous raconte maintenant la vie et l'œuvre entrelacées de celle que le désir farouche de liberté n'a pas empêché de rester éternellement prisonnière de l'emprise de sa mère, Colette. Sur une photographie que possédait Colette, on découvre, accrochée à une rue pentue de son village natal de Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Bourgogne, la maison bourgeoise de son enfance. Cette photo, Colette a elle-même pris soin de la légender en inscrivant en haut à droite, dans une écriture délicate, la maison de Sidot. Sidot, c'est le surnom que donnait son père à sa mère et le titre que Colette donnera aussi au récit qu'elle lui dédie. Cette maison, son enfance et Sidot sont trois éléments indissociables pour l'écrivaine. De son propre aveu, sa mère a été le personnage principal de toute sa vie. Personnage, oui, car l'existence de celle qui s'appelle en réalité Sidonie Gabrielle Colette fut des plus romanesques. Son histoire commence paisiblement en Bourgogne, aux côtés de sa mère née Sidonie Landois, de son père, le capitaine Jules-Joseph Colette, de sa demi-sœur Juliette et de son demi-frère Achille, né du premier mariage de Sidot, et de son frère Léopold. Sidonie Gabrielle, que l'on appelait simplement Gabrielle, est la petite dernière de la famille, et naturellement, elle accapare particulièrement l'attention de sa mère. Sidot a noué avec sa fille une relation complexe, un amour étouffant, une possessivité inquiète, une sévérité affectueuse et jalouse. En somme, une rivalité de femmes. Colette se souvient, elle était tantôt, je cite, son joyau tout en or, sa beauté, sa petite fille incomparable, son chef-d'œuvre, tantôt un miracle de gentillesse et de fadeur, à l'air parfois bête, et ses mots doux ou incisifs prononcés par sa mère résonneront en elle tout au long de sa vie. En lisant Colette, on comprend que Sidot exerçait sur sa famille une domination naturelle. Elle en était la boussole. Sa curiosité et son insoumission la rendaient magnétique. Dans le foyer, tout gravitait autour d'elle. Ce n'est pas un hasard si la première version du texte Sidot, que Colette signe en 1929, a pour titre « Sidot ou les points cardinaux ». L'auteur écrit « Mon imagination, mon orgueil enfantin, situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayon, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère ». Et Sidot aussi, forcément, est donc au centre de cette rose des vents. Sidot et mon enfance, l'une et l'autre, l'une par l'autre, furent heureuses, au centre de l'imaginaire étoile à huit branches. C'est sa mère qui transmet à Colette sa sensibilité à la nature, thème si présent dans le texte de Sidot. Sa mère qui cachait, selon les mots de l'écrivaine, derrière son visage quotidien, un visage sauvage. Qui lisait l'heure dans la position du soleil ou le parfum des plantes, qui pouvait prédire si l'hiver serait rude en observant le comportement des écureuils, des tortues et des chats, qui refusait de couper les fleurs chéries de son jardin, même pour décorer une tombe. Malgré l'admiration qu'elle lui portait, le récit hommage de Colette à Sidot, teinté de poésie et de crainte, n'a pas été évident à écrire. Aux prémices de sa carrière littéraire, la figure maternelle est d'ailleurs absente des œuvres de Colette. Dans la série très populaire des Claudine, l'héroïne est orpheline de mère. Une manière pour l'auteur, sans doute, de se libérer de l'emprise de la sienne après s'en être déjà éloignée, en se mariant à 20 ans avec Henri Gauthier-Villars, surnommé Willy, puis en le suivant à Paris. Après s'être échappée du giron de sa mère, c'est dans les filets de Willy que Colette se débat désormais. Après le succès du premier Claudine à l'école, publié en 1900, et dont il s'est éhontément approprié la paternité. Cet écrivain mondain, mari infidèle et industriel né, la convainc d'en rédiger la suite. S'exécutant avec talent, Colette écrit successivement Claudine à Paris, Claudine en ménage, puis Claudine s'en va. Oui, Claudine s'en va, et elle n'est pas la seule. Ce dernier tome, toujours signé par Willy, paraît en 1903, alors que Colette s'apprête à prendre son envol à tout juste 30 ans. Ainsi, l'année suivante, c'est sous le nom de Colette Willy qu'elle publie « Dialogue de bête ». Une page se tourne. Non seulement la fille de Sidot se libère en tant qu'écrivaine, mais elle s'affirme aussi en tant que femme, puisque c'est en 1909 qu'elle rencontre Mathilde Morny, une femme, oui, surnommée Missy, avec qui elle vivra une histoire d'amour jusqu'en 1911. Cette indépendance à laquelle goûte Colette se concrétise véritablement lorsqu'elle divorce officiellement de Willy en 1910. À 37 ans, la voici enfin rattrapée par une volonté féroce de liberté qu'elle ne peut tenir que de Sido qui, selon sa fille, avait ce besoin de n'obéir qu'à une loi écrite par elle seule, pour elle seule. Afin de gagner sa vie, et avec comme partenaire le célèbre mime Georges Vague, Colette entame alors une carrière dans le music-hall qu'elle raconte dans le livre « La Vagabonde ». Sous les traits du personnage de René Néré, elle y décrit dans un style rythmé et imagé la solitude d'une femme de lettres qui a mal tourné. La même année, en parallèle de sa vie sur les planches, elle démarre une activité journalistique au quotidien Le Matin. C'est là qu'elle rencontre son deuxième mari, un homme, oui, son rédacteur en chef, le charismatique baron Henri de Jouvenel, qu'elle surnomme Sidi. À l'époque, toujours pas de traces de sa mère dans les récits de Colette, mais l'année même de ses secondes noces, en 1912, un événement va venir semer les premières graines qui germeront 17 ans plus tard dans l'esprit de l'auteur à succès pour donner naissance à son récit dédié à Sido, son décès. Il fallait que le personnage principal de sa vie meure pour qu'elle lui consacre enfin un roman. Colette a beau avoir manqué les funérailles de sa mère, ses souvenirs d'enfance s'imposent peu à peu à sa mémoire, malgré elle, après la disparition de Sido. Et sa plume, 10 ans plus tard, a fini par se tourner vers le passé et sa province natale. Sido apparaît ainsi explicitement dans La maison de Claudine, parue en 1922. Cet ouvrage, au titre trompeur, où il est davantage question des aventures de l'auteur que de celles de Claudine, se divise en plusieurs textes courts dont les titres parlent d'eux-mêmes. « Ma mère et les livres »,« Ma mère et les bêtes », »,« Ma mère et la morale », Où sont les enfants, etc. À ce premier livre de souvenirs familiaux succède donc, en 1929, Sido. Un court récit dans lequel Colette se remémore quelques paroles témoignant de la personnalité de sa mère et la revoit dans le jardin de leur maison de Saint-Sauveur en Puisaye, raillant les Parisiens et louant la beauté de sa province auprès de sa fille. Colette y ajoute l'année suivante deux autres parties respectivement intitulées « Le capitaine », en référence à son père, et « Les sauvages », pour désigner ses deux frères. À partir des années 20, Colette aborde ainsi des sujets plus intimes. Chérie, publié en 1920 et qui sera adapté au théâtre, puis Le blé en herbe, qui paraît en 1923, s'inspire de ses relations avec des hommes plus jeunes, parmi lesquels Bertrand de Jouvenel, le fils de son mari, dont elle ne tarde pas à se séparer. Le blé en herbe est aussi la première œuvre qu'elle signe enfin du seul nom Colette, et non plus Colette Willy. À 50 ans, l'écrivaine entame alors le troisième et dernier chapitre de sa vie. Elle le partage avec Maurice Goutquet, qu'elle rencontre en 1925 et qu'elle épouse 10 ans plus tard. C'est avec lui qu'elle termine ses jours après l'avoir sauvé du génocide juif grâce à sa notoriété. Présidente de l'Académie Goncourt depuis 1949, Colette meurt 5 ans plus tard, le 3 août 1954, à 81 ans, avec tous les honneurs. Elle est en effet la première Française à avoir droit à des funérailles nationales. Elle qui s'était longuement appliquée à ressusciter les morts sous sa plume, ceux de sa famille mais aussi sa chère amie Marguerite Moreno dans Le Fanal Bleu, publié en 1949, le dernier livre qu'elle a écrit avant d'être paralysée par l'arthrite. Quant à savoir quelle est la part de vérité dans sa prose, si je me trompe, laissez-moi errer, nous prie Colette dans Sido. Peut-être consciente que le regard qu'elle pose sur sa mère est celui subjectif de sa fille.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Colette avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une écrivaine qui nous invite à relire l'œuvre et la vie de cette icône dans son dernier ouvrage. Bonjour Emmanuel Lambert.
Bonjour.
Vous publiez Sidonie Gabriel Colette aux éditions Gallimard, dans lequel vous écrivez que Sido, ce livre autobiographique centré sur la mère de Colette, est l'un de ses plus beaux ouvrages, sinon le plus beau. Qu'est-ce qui, selon vous, en fait le plus beau de tous ces livres ?
Alors évidemment, c'est très subjectif. Comme pour tous les grands écrivains, on peut trouver de tout chez Colette selon le moment de sa vie où on la lit. Donc il se trouve que dans mon cas, je pense qu'il y a le moment où j'en suis comme lectrice et comme écrivaine et comme femme. Et il y a dans Sido une sorte de synthèse absolue de son art, c'est-à-dire il y a un style qui est porté à l'incandescence dans sa puissance d'évocation, de résurrection et de résurrection des morts. Et puis il y a une sorte de synthèse aussi entre la femme, la fille, la sœur, la mère, l'écrivaine. Vous l'avez très bien dit, elle en est passée par d'autres livres avant d'écrire Sido. Donc c'est une sorte de sommet pour moi. C'est aussi un livre qui est publié en 29. C'est la fin des années 20 de Colette où elle est vraiment à l'apogée de sa carrière littéraire. Donc c'est un livre où se mêlent à la fois l'intelligence, le sentiment et la très grande technique littéraire. Mais on sait très bien que plus les écrivains sont doués techniquement et moins on voit leur travail.
Mais où en est-elle, elle, à titre personnel, en 1930, quand elle écrit, 29, vous disiez, quand elle écrit ce livre ?
Alors, elle est mariée à son troisième mari, le fameux Maurice Goutquet, voilà, qui va l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. Il a quand même 16 ans de moins qu'elle. C'est déjà pas mal d'avoir trois maris et c'est pas mal de terminer avec quelqu'un qui a 16 ans de moins que soi, surtout quand on est une femme née en 1873. On peut dire, d'une certaine manière, qu'elle est calmée. Après une vie extrêmement aventureuse, elle a eu plusieurs métiers, elle était très compétente dans tous ses métiers. Voilà, elle est un peu installée, elle est avec cet homme, elle a une reconnaissance littéraire immense, c'est une très grande star. Elle est très connue d'une armée de lecteurs et particulièrement de lectrices. Mais elle continue quand même à courir après l'argent, ce qu'elle fera toute sa vie, ce qui explique aussi sa productivité extraordinaire. Je dirais qu'elle est au sommet, voilà, à ce moment-là.
Comment est-ce que Colette justifiait-elle le fait qu'elle ait attendu si longtemps pour évoquer la figure de sa mère, Sido, dans ses écrits ?
Alors Colette, elle a ça d'intéressant, et c'est une chose que moi j'apprécie beaucoup aussi, parce que j'aime beaucoup quand les écrivains imposent leur liberté et leur chic, d'une certaine manière. Colette, elle a un petit côté reine d'Angleterre, elle ne justifie pas, elle n'explique pas, elle fait. Donc ce qu'on peut comprendre dans la manière dont elle aborde la chose, c'est qu'effectivement, elle a dû en passer par des accélérateurs de liberté et de maturité pour enfin affronter l'image de Sido. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est, vous dites, le titre du livre, c'est Sido, c'était la manière dont le père de Colette appelait sa mère. Alors que dans le premier livre où sa mère apparaît, La maison de Claudine, hein, qui n'a donc rien à voir avec Claudine, ça c'est une rouerie, parce que Claudine, ça s'était tellement bien vendu qu'on espérait que ça ferait vendre aussi.
C'est du marketing, quoi.
Pur et dur. Elle dit ma mère.
Oui.
Elle dit ma mère. Donc on passe de ma mère à Sido. Hein. Donc, et là, il y a voir sa mère aussi comme femme et comme mère. Donc ça suppose une maturité affective et intellectuelle. Après, il y a des choses toutes simples. Historiquement, si vous voulez, entre le décès de Sido et ces livres-là, il y a quand même le fait que Colette devienne elle-même mère. Et puis, il y a la Première Guerre mondiale. Une guerre mondiale, ça retarde aussi sans doute un certain nombre de choses. Donc elle a, voilà, je ne l'explique pas, mais je le saisis à travers les intuitions et les nuances qu'elle donne dans son œuvre et puis son parcours de vie.
Emmanuel, que disait Colette de la relation qu'elle entretenait avec sa mère, Sido ?
Elle écrivait sur cette relation. Elle a écrit dans, en fait, trois livres, La maison de Claudine, La naissance du jour et Sido. Et à chaque fois, elle adopte un point de vue différent. C'est dans La naissance du jour qu'elle dit vraiment qu'elle est la fille de sa mère. Dans La naissance du jour, là, elle assume totalement le regard d'une femme mûre sur ce qu'a été sa relation d'enfant avec sa mère et ce qu'elle a été en tant que femme, comme fille de Sido. Alors, je peux peut-être vous lire un petit passage. Donc, le livre est ouvert par une lettre de Sido à Colette. Elle dit ceci. « Au cours des heures où je me sens inférieure à tout ce qui m'entoure, menacée par ma propre médiocrité, effrayée de découvrir qu'un muscle perd de sa vigueur, un désir sa force, une douleur la trempe affilée de son tranchant, je puis pourtant me redresser et me dire « Je suis la fille de celle qui écrivit cette lettre. » Cette lettre et tant d'autres que j'ai gardées. Celle-ci, en 10 lignes, m'enseigne qu'à 76 ans, elle projetait et entreprenait des voyages, mais que l'éclosion possible, l'attente d'une fleur tropicale, suspendait tout et faisait silence, même dans son cœur destiné à l'amour. Je suis la fille d'une femme qui, dans un petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Je suis la fille d'une femme qui, 20 fois désespérée de manquer d'argent pour autrui, courue sous la neige, fouettée de vent, criée de porte en porte chez des riches, qu'un enfant près d'un âtre indigent venait de naître sans l'ange, nu sur de défaillantes mains nues. Puissais-je n'oublier jamais que je suis la fille d'une telle femme qui penchait tremblante toutes ses rides éblouies entre les sabres d'un cactus sur une promesse de fleurs, une telle femme qui ne cessa elle-même d'éclore infatigablement pendant trois quarts de siècle.
C'est vraiment magnifique, et à la fois ça questionne peut-être d'autant plus sur sa relation à elle avec sa fille, parce que c'est une naissance assez tardive d'une fille qu'elle appelle comme elle, c'est tout de même quand même particulier, et dont elle va quand même assez peu s'occuper. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu justement un désir d'aller d'autant plus au-devant de sa propre fille, qu'elle-même avait eu une mère exceptionnelle et qu'elle avait le potentiel d'en être une aussi?
Absolument. Alors, il y a quelque chose qui rappelle la relation de Sido à Colette. C'est pas nécessairement la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'amour maternel, c'est-à-dire, c'est l'exigence. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'admiration plus que de l'amour, et une admiration qui veut pas être déçue. Sido avait ça vis-à-vis de Colette, elle pouvait être dure, elle avait ça vis-à-vis de tous ses enfants, mais Sido avait régné sur l'enfance de ses enfants, avait régné sur son jardin, avait régné sur sa maison, et avait été présente tout au long de leur développement. Ce qui n'est absolument pas le cas de Colette. Donc c'est vrai que quand on lit les papiers qu'on a retrouvés chez Colette de Jouvenel, puisque c'est le nom de la fille de Colette, hein, on voit que c'est vraiment une enfant, non seulement en manque de mère, mais en manque de parents tout court. Et celui qui a... Pour moi, le mieux résumé cette affaire, c'est comme toujours Jean Cocteau, qui était un observateur à la fois aimant et lucide sur Colette, dont il était le voisin au Palais Royal et l'ami. Il parle, concernant Colette de Jouvenel et sa mère, il parle de l'affrontement du monstre maternel. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose chez Colette, ça se sent dans l'extrait que je viens de lire aussi, c'est-à-dire il y a cet œil qui observe toujours et qui veut toujours se renouveler. Et donc elle a abordé aussi la maternité comme ça, presque en observatrice. Elle a écrit un texte absolument génial après la naissance de sa fille, mais assez troublant, où elle décrit les premiers jours d'une jeune accouchée et sa crainte de ne pas pouvoir aimer l'enfant, hein, c'est-à-dire ce sentiment d'étonnement, de stupéfaction presque face à l'être qui vient de naître. Mais vais-je l'aimer ? C'est pas rien d'écrire ça.
Ouais. Hein, mais voilà. Elle a quand même choisi sa vie de femme et sa vie d'artiste plutôt que sa fille.
Il me semble que oui, mais c'est assez paradoxal, parce qu'on peut aussi penser qu'elle a choisi la maternité puisqu'elle devient mère à 40 ans. Ce qui, pour cette génération, est plutôt l'âge où on devenait grand-mère, hein, quand même. Il y a dans les contes sur l'enfance, elle décrit la sorte de stupeur et d'horreur qu'elle a à envisager la grossesse et l'accouchement. Elle a décrit des avortements dans certains de ses livres. Donc, c'est un sujet qui l'intéresse. Et à 40 ans, elle devient mère. Donc, elle le choisit quand même. Mais, il y a un mais, c'est que, entre une carrière d'artiste et d'intellectuel et de journaliste et une maternité comme l'avait été celle de sa propre mère qui s'est occupée des enfants à la maison, quel choix avait-elle, hein.
Ce qui est magnifique dans votre livre, Emmanuel Lambert, ce sont toutes les photos.
Elles sont magnifiques, ah oui.
Ces photos sont fascinantes. Oui. D'abord, que vous inspirez-vous toutes ces photos et que vous renvoie l'image de ces femmes qui sont immortalisées sur le papier avec des clichés absolument fascinants.
Oui, alors ces photos, elles m'ont donné envie d'écrire parce que il y a dans le livre deux types de photos. Il y a les photos de famille, les photos d'archives. Donc ça, c'est émouvant parce que ça dit quelque chose, on va dire, de la chair des journées quotidiennes, quoi. Et puis il y a les photos d'artistes. Et les photos d'artistes, elles vous donnent envie d'écrire parce que en fait, elles disent quelque chose, mais elles le disent évidemment de manière muette puisque ça passe par l'image. Et que disent les portraits de Colette ? Alors ça, c'est intéressant. Colette, elle a été portraiturée par les plus grands photographes du XXe, pour une raison très simple, c'est qu'elle c'était une très grande star. Et que donc, voilà, ça aussi, c'est une évidence, pardon de le dire. Et que donc, à la fin de sa vie, ils sont tous venus la photographier. Donc il y a Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Guy Miller, Irving Penn, enfin tout le monde est là, Gisèle Freund, magnifique.
Magnifique dans son lit.
Magnifique, magnifique. Et ça dit quelque chose qui est parallèle à ce qu'elle écrit au fond, c'est-à-dire qu'il... En gros, ça ne se termine que quand on meurt, pardon, ça aussi c'est une évidence. Mais il y a une espèce de flamme chez Colette, y compris quand à la fin elle est obèse, diminuée, immobile, vraiment très entravée dans un corps qui avait été son arme principale, puisqu'elle s'est servie de son corps pour se libérer, hein, par la scène, par la sexualité. Et il y a quand même cette séduction qui est impossible à domestiquer. Je trouve ça assez fascinant. Oui.
Un dernier mot, Colette est née voilà 150 ans. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre sur elle, sur son parcours aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas si on peut apprendre quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut changer le regard. pendant longtemps, elle a été vue comme une dame un peu plan-plan, qui écrivait sur les chats, les chiens, les plantes. Ça, c'est un peu la rançon de la postérité. Hein. Il me semble qu'il est temps de voir chez Colette quelque chose de l'ordre d'une affirmation féminine pour une femme d'une génération et d'un milieu qui ne se serait jamais revendiquée féministe.
Merci beaucoup, Emmanuel Lambert. Je rappelle votre livre, Sidonie Gabrielle Colette, disponible aux éditions Gallimard.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, nous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Exactement, et là encore, j'ai un indice musical.
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon.
Colette Renard,
je me fais
exactement. C'était difficile, je vous ai dit au début de l'émission que ça serait un quiz spécial Colette.
Ah bah oui, donc c'est les Colettes.
Voilà, c'est les Colettes.
Les Colettes.
Et ce sera la Colette même la pendant Colette, le quiz.
Alors avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Colette, vous nous emmenez dans l'intimité de sa maison en Bourgogne.
Oui, Stéphane, je m'appelle Claudine, j'habite Montigny. Cette phrase est la première du roman Claudine à l'école. Et Montigny, bien sûr, c'est en fait Saint-Sauveur en Puisaye, cette petite commune de Lyon où naît Sidonie Gabrielle Colette le 28 janvier 1873. C'est un village pas très joli, que pourtant j'adore, écrit Colette. Jusqu'en 2016, quand on venait à Saint-Sauveur en Puisaye, on pouvait déjà visiter le musée Colette, installé dans le château. On y trouvait le fonds Colette, confié par ses héritiers, sa collection de papillons, le contenu de son appartement au Palais Royal, d'ailleurs avec la reconstitution de sa chambre. Et puis, elle collectionnait aussi les sulfures, vous savez, ces espèces de... Imaginez les boules, vous voyez les boules à neige, sauf que là, c'est en verre. Et on intègre à l'intérieur du verre des fleurs, des morceaux de bois, enfin un petit peu tout, c'est extrêmement joli.
Elle en avait... Ça faisait des presse-papiers aussi.
On s'en servait de presse-papier. Donc, on pouvait déjà aller sur les traces de Colette et voir des collections qui lui étaient liées à Saint-Sauveur en Puisaye. Mais depuis 2016, eh bien, on peut aussi visiter sa maison natale, la grande maison grave et revêche, selon sa propre expression, du 8 rue de l'Hospice, qui tout naturellement a été baptisée rue Colette. Et c'est la maison où elle passa les 18 premières années de sa vie, longue, plate, avec ses volets gris, son entrée cochère et son perron double qui boite, écrit André Bourrin. Qui boite, pourquoi ? Parce que la rue est complètement en pente. Avec son toit d'ardoise, c'est une assez vaste demeure coiffée d'un grenier, avec des communs et des caves. C'est quand même une grande maison, elle fait 13 pièces. C'est plutôt une maison de bourgeois cultivés. Alors on y trouve tout ce qu'on va trouver dans toutes les maisons de l'époque, dans cette catégorie sociale, si vous voulez, c'est-à-dire des fausses pierres de taille, du papier peint absolument partout, des cheminées en marbre, mais des plinthes en faux marbre, des parquets de chêne et une bibliothèque richement pourvue. Mais les deux pièces qui sont particulièrement touchantes, peut-être, c'est à la fois la salle à manger, parce que c'est dans la salle à manger que le père de Colette, le capitaine Jules Colette, il y a beaucoup de photos de lui dans le livre dont on vient de recevoir l'auteur, qui a une tellement brave homme, tellement gentil, il a une tête, il a l'air bon cet homme. Et c'était un ancien zouave qui avait été amputé d'une jambe à la bataille de Melegnano, et donc il avait obtenu un emploi de percepteur et qu'il a exercé quelque temps à Saint-Sauveur en Puisaye dans cette salle à manger. Et puis il y a bien sûr la chambre de Colette qui est une pièce exiguë, bas plafond, en fait une sorte de soupente, mais c'était sa pièce préférée, celle où elle se réfugiait. Et puis naturellement le jardin, Stéphane, que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, derrière la cour, cette cour qui conduit au jardin du haut, celui des fouillis de fleurs, et au jardin du bas, celui du potager. C'est dans ces jardins que Gabrielle Colette a acquis auprès de sa mère, Sido, sa connaissance des plantes et des bêtes, l'attention aiguë à tout ce qui veut vivre, l'amour de la liberté et cet art de percevoir le monde à travers tous les sens qui deviendront les marques d'un style unique dans toute l'histoire de la littérature. Dans son œuvre, Colette évoque avec beaucoup de nostalgie le décor de son enfance et elle a tellement aimé ce lieu que quand elle y est revenue une fois fortune faite pour assister à une inauguration officielle, elle a refusé d'y mettre les pieds. elle préférait conserver intacts ses souvenirs d'enfance et ne plus y aller. C'est dire, c'était quand même assez puissant comme nostalgie des lieux. Évidemment, il y avait des images douloureuses parce que la famille avait dû quitter la maison en 1891. Donc elle a vécu 18 ans là-bas. Et là, la famille a eu des grosses difficultés financières, était très endettée et ils ont dû quitter les lieux, vendre les terres que possédait encore Sido, vendre les meubles, vendre une partie de la bibliothèque. Les Colettes, ruinées, déclassées, s'installent alors en 1891 à Châtillon-Coligny, dans le Loiret, à 40 km de Saint-Sauveur, là où Achille, le fils aîné, était désormais médecin. Et c'est là que c'est le démarrage de l'histoire et de la grande histoire de Colette, parce qu'elle se retrouve jeune femme très, très, très belle, très intelligente, mais sans aucune dot. Et elle va se tirer d'affaire, elle va quitter sa région, venir à Paris grâce à Willy. Willy qui, à la fois, on le sait, va signer les premières Claudine, donc à sa place, va usurper l'écriture de Colette, en somme, mais grâce auquel elle va démarrer comme écrivain. Et donc c'est en mai 1893, elle épouse Willy, elle quitte sa famille pour aller habiter à Paris. Devenue écrivaine, Colette va faire de sa maison et de son pays natal un thème récurrent de son œuvre. Sur le site de la maison de Colette, on peut lire « Mieux qu'une simple maison d'écrivain, la maison natale de Colette est le seuil de sa création littéraire. » Et plus loin, « Il n'y a pas ou peu d'équivalent dans l'histoire de la littérature française que cet écrivain qui a consacré autant de pages, autant d'énergie créatrice à recomposer par l'imagination un lieu de vie, la couleur et le motif d'un papier peint, le détail d'une gravure, la forme d'un objet, pièce après pièce, jardin après jardin. Colette aura pendant près d'un demi-siècle cherché à recréer par l'écriture le paradis qu'on lui avait volé à l'âge de 18 ans. Eh bien, Saint-Sauveur en puisait dans la maison de Colette. Colette est là, rien n'a changé, elle est revenue chez elle à la maison.
Et la référence que vous donniez sur les photos et sur le livre, c'est le livre évidemment d'Emmanuel Lambert, publié chez Gallimard, Sidonie et Gabrielle Colette, avec toutes les photos.
Mais dans une qualité en plus.
Ah oui, vraiment, vraiment, c'est un très très beau livre. Eh bien maintenant, c'est l'heure de céder la place à...
Avec joie, avec moi, j'imagine.
C'est vous qui prenez les rênes.
J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée.
C'est le quiz Born to be Alive maintenant. Et aujourd'hui, bien, bravo Jean-Luc, c'est un quiz spécial Colette.
Oui, j'ai hésité avec un quiz spécial comète, même un spécial côtelette, mais je me suis dit dans une première...
C'est moins historique, disons.
C'est moins historique, ça vous aurait moins plu.
Bon, écoutez, ça me va, ça veut dire que vous travaillez les émissions, Colette, c'est bon, c'est parti pour Colette.
Eh bien, allons-y alors. Une question pour vous, Stéphane. Nous sommes le 28 janvier 1873, dans l'Yonne, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est la naissance de Sidonie Gabrielle Colette. Mais cette année-là, c'est aussi la naissance de la première automobile à vapeur. Comment elle s'appelle, la première automobile à vapeur, Stéphane ?
C'est le Fardier.
Non, j'ai des propositions, si vous voulez. Ah,
c'est le Fardier de Pugnot.
Le Fardier de Pugnot.
De Pugnot. Pugnot ou Cugnot ?
Pugnot
ou
Cugnot ? Junio.
Non, c'est Pugnot ou Cugnot ?
Bon, attendez les propositions.
Oh, bon,
c'est pas du tout ça. Alors, la première voiture s'appelait l'Obéissante.
Ah oui.
La valeureuse ou l'époustouflante ?
Je crois que c'est l'obéissante.
Je dirais l'époustouflante parce qu'on devait être fasciné.
C'est pas la récalcitrante plutôt.
Non, c'est pas la récalcitrante, c'est pas dans les propositions. Vous arrêtez maintenant.
L'époustouflante.
L'époustouflante pour Stéphane.
Vous avez.
Non.
Perdu.
Non, ouais. C'était l'obéissante.
Je l'ai dit, hein.
Oui,
c'est
mais
pas comme si
pas
je
obligé.
L'avais pas dit. Hein.
Je suis pas obligé de vous suivre.
Bah, alors que... Vous auriez mieux fait sur ce coup-là.
Oui, mais j'avais envie. Il n'y a pas d'enjeu dans ce quiz.
Et qui était le créateur, d'après vous ?
C'est pas de Dion Bouton, c'est de Dion Bouton, non ?
Non, c'était l'obéissante d'Amédée Bollé.
Ah bon ?
Voilà. Bon, enfin... Elle pouvait transporter 12 personnes à quelle vitesse, d'après vous ?
À mon avis.
Un peu plus.
Plus de 12 km/h ?
Bien sûr.
18.
Non, c'est-à-dire qu'on serait trop rapide pour être à Paris chez Anne Hidalgo. Mais
40.
40, exactement.
Non, mais si. Tout ça, c'est pas... Mais non, mais c'est
mais
pas
arrêtez,
vrai.
Arrêtez, arrêtez. Il y a des gens qui n'ont pas dormi de la nuit pour faire ce quiz.
Jean-Luc, vous voyez bien que c'est elle qui sait tout.
Non, mais le premier véhicule à vapeur, voilà. C'est le Fardier.
Voilà,
excusez-moi.
Voilà.
Elle c'est sait pas mieux votre truc que... 1873. Voilà. C'est
là,
pas vrai.
On parle d'automobile.
Eh ben, c'est une automobile, c'est un véhicule qui se déplace à la vapeur, avec une espèce d'énorme... Vous avez vu le fardier au Musée des Arts et Métiers. Alors soutenez-moi, là, au lieu de faire la Sainte-Nitouche. Il ne veut pas contester.
Le fardier, c'était un chariot à vapeur.
Ah, un chariot à vapeur, excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec
vous
un
voulez
véhicule.
Faire un voyage sur un chariot à vapeur, madame?
Oui, mais c'était beaucoup plus lent.
Ah, oui, c'est ça. Mais la mauvaise foi, c'est pas possible.
Non, mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Ça, c'est
allez.
Là, vous allez me vexer. Hein.
Vous voulez parler? Eh bien, oui, j'ai une question pour vous.
Allez-y, question.
15 mai 1893, à Châtillon-sur-Loing, Colette et Willy se marient. Willy, c'est un pseudo, vous le savez. Son vrai nom, c'était Henri Gauthier. Henri Gauthier-Villars, pour être précis même. Ensemble, ils ont écrit la série littéraire des Claudines. Lequel des Claudines n'existe pas? Claudine en ménage, Claudine s'en va, ou Claudine à tue-tête?
Claudine à tue-tête.
Oui, ça me dit rien, celui-là.
Ça a fusé.
Parce que je connais les autres.
Claudine à tue-tête.
Claudine à tue-tête pour Clémentine.
Vous avez... gagné!
Bonne réponse de Stéphane Bern. Claudine à tue-tête n'existe pas, enfin n'a pas existé. La série des Claudines sera écrite par Colette, mais sous le nom de Willy. Ce dernier va vendre les droits à ses éditeurs sans avertir Colette et sans dire que c'était l'autrice principale.
Ouais, c'est pas beau. C'est moche.
Ouais, c'est moche. C'est un fief et en paffé. J'essaie de rester correct, mais c'est compliqué. Une question pour vous, Stéphane, pour égaliser. 1923, c'est la sortie d'un roman qui va faire scandale, Le blé en herbe. Colette vint s'inspirer de la relation qu'elle a eue avec le fils de son époux. Dans cette œuvre, il est question d'initiation sexuelle. D'ailleurs, quel roman est sorti en premier? Le blé en herbe de Colette ou Sodome et Gomorre de Marcel Proust? Donc le blé en herbe, c'est 1923. D'après vous, le Sodome et Gomorre...
C'était forcément sorti avant.
Donc c'est sorti avant. Sauf si la fin... Il y a peut-être un piège.
Ah, sauf si c'est son frère qui l'a fait publier après. C'est peut-être Marcel... Pas Marcel, parce que Albert, non? Albert parce... ou Robert? Est-ce qu'il faut aller chercher midi à 14h?
Oui, non, je crois que Proust, c'est sorti avant.
C'est sorti avant Proust, on vérifie.
Vous avez... gagné.
Mais oui, Sodome et Gomorre sort en premier en 1921, puis Le blé en herbe en 1923. Un rapprochement a été fait entre ces deux ouvrages qui abordent le thème de l'initiation sexuelle, chose qui était très rarement racontée dans la littérature de l'époque. Clémentine, c'est à vous pour remporter ce quiz. 1920. Colette sort un roman appelé Chérie. Cela devient une pièce de théâtre l'année suivante et un film au cinéma en 1950 dans lequel jouait Jean Marais. Voici ma question. Colette a écrit la suite de Chérie, mais sous quel titre? Chérie 2, La fin de Chérie ou Le retour de Chérie?
Oh là là.
Ou Chérie Bibi?
Oh, Chérie Bibi. Chérie Bibi. La fin de Chérie, ça fait un peu les seins de Chérie. La fin de Chérie.
Ou Le retour de Chérie?
Le retour de Chérie. Le retour de Chérie.
Le retour de Chérie pour Clémentine.
Mais j'en sais rien alors.
On parle là-dessus.
Vous avez... Et je suis désolée pour vous. Perdu.
Bah, soyez pas désolée, j'ai eu bon la première question, madame, là.
C'était pas ma voix, hein. C'était quelqu'un d'autre qui dit ça. Non, c'est la fin de Chérie qui sort en 1926 chez Flammarion. Notez qu'en 2009, il y a une autre adaptation ciné de Chérie avec Michel Pfeiffer. Une question pour vous départager.
Mais oui.
Elle va vous plaire, je pense. Vous le savez, Colette fut également journaliste. Elle a écrit dans Elle, mais aussi dans Marie-Claire. C'est elle qui dirige le numéro 100 de Marie-Claire. Sur la couverture, on peut lire en toutes lettres « Marie-Claire est fait par Colette ». Le numéro sort en janvier 1939. Il comprend 60 pages. Pour l'instant, vous avez toutes les infos, c'est bon?
Oui.
Ce que je veux savoir, c'est combien il coûtait en francs?
Bon, attendez une minute, je vais vous le lire tout de suite.
Non,
c'est pas bien.
On ne cède pas.
Un franc 50
pour
combien
Stéphane.
Combien coûtait en francs un numéro spécial de 60 pages? 5 francs.
Et le gagnant ou la gagnante du jour est Stéphane Bern.
puisque la bonne réponse était 1,75 francs.
Oh, ah, j'étais pas loin.
Dans ce numéro, on pouvait trouver un portrait de Michel Simon.
Là, c'est bien.
Et un autre de Bette Davis signé par Colette. J'ai même la couverture du numéro de Marie-Claire.
Voilà, elle est dans le livre qui nous a été présenté aujourd'hui, cette couverture. Ah, c'est bête si je l'avais feuilleté un peu mieux.
Si vous aviez écouté un petit peu nos invités.
J'aurais eu la réponse, là. Elle y est, je suis tombée dessus tout à l'heure. Je me suis dit, elle a été
la magnifique,
en chef.
Magnifique couverture.
Elle est là. 100e numéro de Marie-Claire.
Regardez en bas à gauche.
1,75 francs. Voilà.
Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises.
27 janvier 1939.
Félicitations, Stéphane.
Merci beaucoup. Merci, mes amis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez, Gavin Clemente-Ruiz et nos personnages du jour qui ont fait de leur mère leur héroïne. Après l'écrivaine Colette qui a raconté la sienne, Sido. Dans un roman marquant, je vous raconte maintenant Romain Gary, qui a écrit lui aussi sur sa maman. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un comédien plus vivant, qui a fait de sa mère l'héroïne d'une pièce et d'un film, Guillaume et les garçons à table.
Oui, Guillaume, c'est Guillaume Gallienne, de la Comédie française, s'il vous plaît.
Oui.
Une pièce et un film dans lequel il raconte son enfance et sa mère, donc, en lui prêtant ses traits. Ben moi, je vous raconterai Guillaume Gallienne sans phare, ni artifice, au naturel.
C'est ce qui vous caractérise le mieux, Jean-Luc, le naturel.
Oh, merci Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Et guidé par l'amour inconditionnel que lui portait sa mère, il a tenté tout au long de sa vie d'être à la hauteur des espérances folles et démesurées qu'elle nourrissait pour lui. Il est devenu successivement aviateur, résistant, diplomate et grand écrivain. Je vous raconte l'histoire du mystérieux Romain Gary et de sa relation fusionnelle avec sa mère qui lui inspira l'un de ses plus beaux romans, La promesse de l'aube. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. En 1960, à 46 ans, Romain Gary publie le récit « La promesse de l'aube » inspirée de sa vie et du lien si fort qui l'unissait à sa mère, partie 19 ans plus tôt. Il raconte les aventures qu'elle lui a fait vivre pendant sa jeunesse, dans l'entre-deux-guerres et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même si, certes, tout ce que l'on sait de la vie de l'écrivain français est à considérer avec prudence, si l'on en croit l'habileté qu'il a eue à se jouer de ses contemporains. Jusqu'à sa mort, Romain Gary, de son vrai nom Roman Kassiev, entretient volontairement le mystère sur son enfance et ses origines. En fonction des circonstances et des personnes à qui il s'adresse, il réécrit et enjolive certains détails de sa propre existence. Cette tendance à la rêverie, à la fabulation qui va faire son talent et son succès, il la tient du grand amour de sa vie, Mina Okshinska. Ancienne comédienne juive née dans l'Empire russe, elle fut mariée un temps à Rieleb Kassev, avec qui elle a eu son fils adoré, son fabuleux Romouchka. Dès la naissance de Romain en 1914, elle le sait promis à un avenir grandiose. « Tu seras ambassadeur de France », lui répète-t-elle. « Tu seras Victor Hugo, prix Nobel, chevalier de la Légion d'honneur, grand auteur dramatique. Tu auras toutes les femmes à tes pieds. » Rien ne lui semble trop beau pour les 12 yeux bleus de Romain. La possessivité de sa mère à son égard n'a alors d'égal que son courage. Bafouée par son mari, qui part refaire sa vie avec une autre dès la fin de la Première Guerre mondiale, Mina, que Romain Gary rebaptise Nina dans son œuvre et qui tenait toujours une gauloise dans une main et sa canne dans l'autre, se montre farouchement déterminée à faire de son fils un grand homme. Afin de lui offrir une enfance confortable dans la grise ville de Vilno, actuelle Vilnius en Lituanie, que se sont longtemps disputés la Pologne et l'Empire russe, la mère du futur Romain Gary monte un salon de haute couture en se faisant passer pour la représentante en Pologne du Français Paul Poiret. Attirant ainsi toute la riche clientèle de la ville grâce à ses contrefaçons, elle peut offrir à son fils des cours de violon, de danse, de peinture, de tir au pistolet ou encore de bonnes manières. Après quoi, elle compte l'emmener en France, pays auquel elle voue une admiration sans borne. Pour beaucoup de Juifs persécutés de l'Est, la France, pays des droits de l'homme et première nation européenne à avoir émancipé les Juifs en 1791, est un Eldorado. Alors, en 1928, le jeune Romain et sa mère s'installent à Nice, où l'adolescent tombe sous le charme de la Méditerranée. À 14 ans, il intègre le lycée Masséna, où rien ne l'intéresse vraiment, si ce n'est la littérature. Et tandis qu'il se cherche un pseudonyme à la hauteur de la carrière qu'il attend, sa mère se démène pour gagner sa vie, en vendant des objets en porte-à-porte, puis en reprenant la gérance d'un hôtel. Après son bac en 1933, Romain Gary quitte le sud pour Paris, où il intègre la faculté de droit de la rue Saint-Jacques. Mais plus que ses études, ce qui lui importe, c'est de devenir le grand écrivain que sa mère espère. Dans la chambre qu'il loue à l'hôtel de l'Europe, il s'acharne à écrire. Et en 1935, bingo, l'hebdomadaire Gringoire accepte de publier une première nouvelle, L'Orage, puis une seconde intitulée « Une petite femme », toutes deux signées, Romain Cassiève. En 1935, c'est aussi l'année où l'écrivain de 21 ans est naturalisé français. Romain Cassiève, futur Gary, qui chantait enfant la Marseillaise avec sa mère depuis la Lituanie, aura fait beaucoup pour son pays d'adoption, et par ce biais en réalité pour sa mère. Du haut de ses 8 ans, il avait déjà pris sa décision. « Tout ce que ma mère voulait, j'allais le lui donner. » Alors, après avoir obtenu sa licence de droit, c'est avec enthousiasme qu'il effectue son service militaire à l'école de l'air. Mais à la veille de la Seconde Guerre mondiale, alors que le fascisme et l'antisémitisme recouvrent l'Europe de leur ombre rouge et noire, sa réussite à l'examen et sa naturalisation jugée trop récente ne font pas le poids face à son statut d'immigré juif. Romain Cassiève est le seul de sa promotion à ne pas être nommé officier. Peut-être aurait suffi à le décourager si sa mère ne lui avait appris à ne jamais renoncer face à l'adversité. Romain Cassiève achève son service et à l'heure de la mobilisation générale, le sergent de 25 ans fait ses adieux à sa mère, alors en mauvaise santé. Quelques semaines avant l'offensive allemande, alors que l'état de Mina Cassiève empire, son fils lui rend visite une toute dernière fois dans l'hôpital de Nice où elle séjourne. Après l'armistice de 1940, sachant qu'elle ne supporterait pas de voir la France perdre la guerre, Romain Cassiève rejoint les forces aériennes françaises libres, au sein desquelles il commence à se faire appeler Romain Gary de Cassiève. Gary, probablement en référence à Gary Cooper, le charismatique acteur américain. C'est sous ce nom qu'il signe son premier roman « Éducation européenne », entamé à son retour des campagnes en Afrique et au Moyen-Orient, puis achevé en parallèle de ses missions de bombardement avec les forces aériennes françaises libres. Porté par le courage que lui a transmis sa mère, Romain Gary revient de la guerre en héros. Décoré de la Croix de guerre, compagnon de la Libération et un premier succès littéraire à son actif. Mais sa mère, elle, n'est plus là pour le voir. Morte d'un cancer gastrique en février 1941, elle ne saura pas que son fils, comme elle l'avait prédit, deviendra diplomate à Sofia, à Berne, à New York, puis à Los Angeles, où il sera consul général de France. Qu'il sera fait commandeur de la Légion d'honneur, qu'il épousera une journaliste anglaise, Leslie Blanche, en 1945, puis la belle actrice Jean Seberg, avec qui il aura un fils, Diego. Qu'il ne signera pas moins d'une trentaine de livres, qu'il réussira l'exploit jamais égalé de remporter le prix Goncourt à 2 reprises, certes sous 2 noms différents, Romain Gary pour Les Racines du Ciel en 1956, puis Émile Ajar pour La Vie devant soi en 1975. Mina Cassiève ne saura pas non plus que Romain Gary fera d'elle l'héroïne qu'elle avait toujours rêvé d'être dans un chef-d'œuvre de la littérature française, La Promesse de l'Aube donc. Elle ne saura pas enfin, et heureusement, que son fils qu'elle aimait tant se donnera la mort à 66 ans, le 2 décembre 1980, passant de l'aube à la nuit noire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Romain Gary, nous avons le plaisir d'accueillir un écrivain qui a entrepris l'exercice délicat de raconter sa vie. Bonjour Kevin Speer.
Bonjour Stéphane Bern.
Kevin Speer, les 2 premiers tomes de votre trilogie, Monsieur Romain Gary, sont parus chez Gallimard. Vous y éclairez les moments charnières de l'existence de l'écrivain diplomate. Comment on raconte la vie d'un homme qui, comme je l'ai dit, s'est plus souvent à brouiller les pistes ?
Eh bien, il est effectivement extrêmement complexe d'embrasser l'entièreté de l'homme et vouloir le restituer dans l'entièreté de sa vie, entre 1914 et 1980, me semble une entreprise complexe, hasardeuse. C'est pourquoi j'ai privilégié trois moments charnières de la vie de Romain Gary que j'explore par le prisme du quotidien, en rentrant dans la vie d'un homme, en le racontant par ses aspérités, par ses doutes, par ses interrogations, mais aussi dans le plus quotidien de son existence, par son rapport à l'écriture, par son rapport à la diplomatie, par l'amour qui le liait à Jean Seberg. Et c'est cette trilogie qui s'intéresse à sa période californienne, à sa période de réalisateur de films en 1967 avec Les Racines du Ciel, avec Les Oiseaux vont au Pérou, et puis l'affaire Émile Ajar qui sera le dernier volet de cette trilogie. C'est cette façon que j'ai d'aborder l'intimité d'un homme pour le restituer pour le lecteur de manière vivante et extrêmement, extrêmement dynamique.
La promesse de l'aube, ce chef-d'œuvre largement inspiré de la relation qu'il entretenait avec sa mère, est paru en 1960. Quel homme est-il à ce moment-là? Où en est-il de sa vie, Romain Gary?
Romain Gary a 46 ans. Il est dans la diplomatie depuis une quinzaine d'années. Il a obtenu le prix Goncourt en 1956 pour Les Racines du Ciel. Et il porte depuis plusieurs mois, plusieurs années, un manuscrit qui va lever le voile sur ses origines juives, sur son exil et sur son rapport intime et charnel à sa mère. Et j'ai retrouvé dans les archives Gallimard les lettres que Romain Gary adresse alors à son éditeur pour retenir son manuscrit, pour le corriger, le peaufiner, car il a le sentiment qu'il a là sa grande œuvre, une œuvre pour la postérité, qui est tout à la fois un portrait familial et en même temps, plus encore, une façon d'assumer la tête haute, qui il est, dans ce royaume des lettres dont il a été, en quelque sorte, un étranger.
Jean-Luc ?
Au moment de l'apparition de ce livre, Romain Gary a déjà obtenu un prix Goncourt en 1956. Il est connu du public, donc comment La promesse de l'aube a été accueillie par la critique ?
Extrêmement favorablement. Gary n'est plus présent en librairie depuis 4 ans maintenant, lorsque La promesse de l'aube paraît au printemps 1960. Et on peut rapprocher l'entreprise qui est celle de Romain Gary de celle de son éditeur chez Gallimard avant l'obtention du prix Nobel, qui est Albert Camus. Et l'un et l'autre ont cette même entreprise, de lever le voile sur leurs origines et de raconter finalement par l'intime quels ont été leurs itinéraires dans ce pays qui les porte au nu désormais et dont ils ont en quelque sorte toujours été des étrangers.
Mais qu'est-ce qui distingue cette œuvre qui paraît de ce qu'on trouvait en librairie à ce moment-là? C'était un livre particulier?
Un livre très particulier qui a une qualité particulière également, qui est l'humour. L'humour et un certain sens de la dérision. Romain Gary raconte par l'anecdote son enfance chaotique, son itinéraire, la façon dont il était marginalisé dans la cour d'école face aux plus grands écueils du XXe siècle qui étaient la xénophobie et l'antisémitisme. Mais il le raconte avec un sens de la dérision et une conscience également, une conscience du monde qui le singularise.
Mais vous racontez dans le premier tome de votre trilogie que Gary considérait ce roman comme son chef-d'œuvre. À quoi cela tient-il ?
Ça tient à un sens de la langue. Romain Gary a été extrêmement critiqué à l'attribution du prix Goncourt 1956 pour Les Racines du Ciel, où la presse, les potins de la Commère ou Kléber Edens faisaient la recension de toutes les coquilles qui pouvaient relever dans la collection blanche. Et Romain Gary a été blessé par ses critiques, et c'est pourquoi il va retenir ce manuscrit pendant de longs mois, en retardant la date de parution et en peaufinant ce texte de manière extrêmement précise. Il y a également le rôle de son épouse, la journaliste britannique Leslie Blanche, qui aura vu la naissance de cette œuvre et qui raconte comment nous sommes à Noël 1957 au Mexique, alors que le couple séjourne pendant ses vacances de fin d'année. Et bien Romain Gary a été en quelque sorte possédé par ce livre dont il veut se délivrer et qu'il aura animé pendant de nombreux jours, de nombreuses semaines, à s'acharner à sa table de travail, tel un démon voulant sortir de ce corps et qu'il aura poussé à écrire de manière absolument géniale un texte universel qui parle aujourd'hui encore à la troisième, à la quatrième génération de lecteurs.
Gavin ?
Gavin Spear, comment Romain Gary décrivait-il l'amour qu'il portait à sa mère, la relation qui les unissait ?
Eh bien, lorsque l'on s'intéresse aux archives sonores, aux entretiens que Romain Gary a pu accorder à Jacques Chancel, à André Bourin, il évoque un amour absolument étouffant. Étouffant par sa volonté de faire de lui un grand homme, et les espoirs que place sa mère en lui sont en quelque sorte trop grands pour ses épaules. Et c'est cette conscience de cette entreprise immense qui va finalement le pousser à se surpasser, à se réinventer sans cesse et à bousculer tous les déterminismes, tout ce qu'il appelle plus tard dans la vie devant soi les lois de la nature. Et cet amour, c'est en quelque sorte la promesse qu'il fait à sa mère de devenir quelqu'un, de rester la tête haute face à tous les événements tragiques qu'il pourrait traverser au cours de sa vie. Et c'est aussi une forme de fidélité. Une fidélité au petit personnage qu'il a été avant de devenir un grand écrivain. Et cette fidélité passe aussi par la réminiscence de son passé, de son enfance à Vilnius, à la fin des années 1910, au début des années 1920, et à l'évocation de ce personnage romanesque, un personnage d'encre et de papier, passé à la postérité grâce à la promesse de l'aube, qui est Monsieur Piekielny. Monsieur Piekielny, c'est ce voisin de la rue de la Grande Paulanka à Vilno, qui fait faire la promesse au jeune Roman, et bien lorsqu'il sera devant les grands de ce monde, d'évoquer sa présence au numéro 5 de la rue de la Grande Paulanka à Vilno, d'un certain monsieur Piekielny. Et cette promesse que Romain Gary contracte alors tout jeune enfant, il va l'honorer, y compris avec la promesse de l'aube, ce livre qui sera traduit dans de multiples langues et qui continuera à intéresser, on l'a dit, des générations de lecteurs.
Et Romain Gary, je l'ai raconté, s'est donné la mort à 66 ans après une vie bien remplie. Tout ce qu'il a accompli, cette carrière de diplomate, ses dizaines d'ouvrages, ses prix littéraires, il l'a fait pour sa mère.
Il l'a fait par fidélité au jeune homme qu'il a été et à ce que sa mère lui a inculqué. Et dans les pages de la promesse de l'aube, absolument bouleversante, on trouve aussi un portrait de la France gaulienne, en quelque sorte, et ce n'est pas un hasard si le livre paraît au printemps 1960, 2 ans après le retour au pouvoir du général de Gaulle. Gary écrit des pages qui font penser, dans son rapport à la France, à la princesse des fresques, Madone idéale, que décrit de Gaulle dans l'espoir, en ouverture des mémoires de guerre, et il y a un rapport charnel, extrêmement proche, qui leur font avoir cet imaginaire en partage. Et j'ai retrouvé dans les archives nationales l'envoi que Romain Gary adresse au général et la façon, de manière extrêmement, extrêmement chaleureuse. Le général répond à Gary dans une sorte de correspondance d'écrivain à écrivain, davantage que de fervent gaulliste à président de la République.
Mais merci beaucoup, Kevin Spear. Je rappelle que les 2 premiers tomes de votre trilogie, Monsieur Romain Gary, sont disponibles aux éditions Gallimard.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castelopez et Gavin Clemente Ruiz, on réunit des personnages qui ont fait de leur mère leur héroïne. Après Colette et Romain Gary, vous nous racontez, Jean-Luc, celui qu'il a carrément incarné dans ce qui reste son plus grand succès, Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, tout de même.
Colette, Romain Gary, et si on en croit cette chanson, Karine Cheryl, étaient très proches de leur mère. Mais le comédien dont je vais vous parler était encore plus loin dans la fusion, car lui, il se prend carrément pour sa mère. Il se sent habité par elle, il s'habille comme elle, il imite sa voix, il en a même fait un film. Et là, Stéphane, vous allez me dire, ah oui, je l'ai vu ce film. À la fin, on découvre un squelette avec une perruque sur un rocking chair.
Ah oui.
Non, vous confondez avec Psychose.
Vu, je l'ai vu sur scène et je l'ai vu en film.
Voilà, deux réussites, on peut le dire. On peut le réussir. Alors, je vais certainement vous surprendre, mais c'est pas parce qu'on enfile la jupe de sa mère de temps en temps qu'on est forcément psychopathe amateur de rideaux de douche. Vous l'avez dit, le film de Guillaume Gallienne s'appelle Les garçons et Guillaume à table. Et dans la mesure où sa mère ne termine pas momifiée, on peut en conclure qu'il s'en est pas trop mal sorti, Guillaume Gallienne.
Allô, maman, bobo.
Maintenant, on va pas se mentir. Hein. À notre époque, c'est moins mal vu de se prendre pour Napoléon que de se prendre pour sa mère. Et le parcours de Guillaume a été plutôt compliqué. Il naît dans la grande bourgeoisie à Neuilly en 1972 et dès l'enfance, il est très complexé. Car aux antipodes de ses frères sportifs et beaux gosses, se sentant incapable de devenir un homme comme eux, Guillaume va trouver sa place en devenant une femme. Ce qui lui permet au passage de jouer le rôle de la fille que sa mère n'a jamais eue et de rester son préféré. Une idée qui se tient. Après, qui de lui ou de sa mère l'a eu en premier? Hein, ça, c'est une question épineuse sur laquelle Françoise Dolto se retourne encore dans sa tombe. Guillaume se déguise en femme.
C'était Françoise Dolto qui se retourne dans sa tombe.
Oui, excusez-moi, c'est un document exclusif Europe 1. On a des reporters qui vont sur le terrain. Stéphane, vous ne cautionnez pas? Écoutez, on fait ce qu'on peut. Vous l'avez senti, le cercueil?
Ah, j'ai tout de suite reconnu. Françoise qui se retournait.
Ouais, exact. Donc Guillaume se déguise en femme et parle de façon précieuse. Mais le milieu bourgeois de l'époque, au début des années 80, n'est pas très gender fluide.
Salut, tu vas bien ?
Et à l'époque, Guillaume se fait traiter de Tantouze. Pourtant, il ne se sent pas homosexuel, il se sent juste fille. Ce qui, à une époque désespérément binaire, le précipite dans une profonde dépression. Dès l'âge de 12 ans, il consulte des psys qui n'ont pas encore entendu parler de cisnormativité ou de transgenreisme. Il faudra attendre le groupe Indochine en 1985 pour avoir un diagnostic vraiment éclairé et décomplexant sur son état. Si on parle un peu technique, et pour que vous appreniez quelque chose, un garçon qui se sent fille ou inversement, c'est une dysphorie de genre. Mais l'autre problème, pour Guillaume, c'est que son modèle féminin n'est pas une vedette à la mode comme Jeanne Masse ou Julie Pietri, mais sa mère.
Maman, c'est toi la plus belle du monde.
Mélita descend de l'aristocratie russe. Il bouge et parle comme elle. Il reconnaît qu'il en est amoureux et qu'elle le fascine. Oui, je sais, ça sonne comme un film d'Almodovar, mais passé 6 ans, être amoureux de sa mère, c'est comme un vrai sac de nœuds oedipiens. Un psy conseillera à ses parents de lui lâcher la grappe et il part en pension à 13 ans en Angleterre. Là-bas, sa grande surprise, ses manières ne choquent personne, on le trouve même joyeux, gay comme ils disent. Après, les Anglais, faut dire qu'ils en ont vu d'autres. Entre Benny Hill qui tape un petit chauve entouré de playmates et Boris Johnson qui reste bloqué et suspendu pour la tête à une tyrolienne, il leur en faut plus pour se formaliser. Il rentre en France à 16 ans et parvient à se réapproprier son identité en retrouvant sa voix avec Claude Fugain. C'est la sœur de Michel et elle est phoniatre, spécialisée dans les troubles de la parole. Stéphane, vous aussi, vous en avez vu une, puisqu'avant, vous parliez comme ça. C'était une autre époque, mais on vous aimait aussi comme ça.
Oui, non, mais j'aimerais bien redevenir comme ça.
C'est ça. Ça se travaille. Puis à 19 ans, suite à la mort de sa cousine, il décide d'enfin vivre sa vie et arrête Hippocagne pour faire du théâtre. Pensionnaire de la Comédie Française, il peut jouer d'autres rôles que celui de sa mère sans se faire insulter. L'histoire de Les Garçons et Guillaume à table prend naissance chez son psy. Pendant que vous passez 10 séances à essayer de comprendre pourquoi vous avez rêvé que vous marchiez nu dans la rue, les pieds collés par du chewing-gum, lui il trouve une idée de film pour lequel il aura 5 Césars. Cette phrase qu'il entendait depuis l'enfance quand sa mère l'appelait pour manger remonte à la surface. D'un coup, il comprend son histoire et la façon dont il a été mis à part. Et un auteur de grands textes va l'autoriser à la raconter au public.
Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman.
Kenji Girac ? Pas du tout. C'est Marcel Proust qui le décomplexe. Il se dit que si un petit bourgeois asthmatique a pu faire une œuvre d'une vie sans intérêt, pourquoi pas lui ? Il crée le spectacle en 2008, notamment marqué par la venue de Stéphane Bern, où il interprète tous les rôles et l'adapte au cinéma en 2013. Il joue son personnage jeune et il y incarne sa mère. Déjà, car il la connaît par cœur, mais surtout car il veut montrer que c'est sa vision à lui. Avec une simple perruque, il est bluffant et James Cameron peut carrément aller se rhabiller avec ses fonds verts et ses images de synthèse. La mère de Guillaume, qui ne voit toujours pas en quoi son éducation était problématique, a beaucoup aimé le film. Par contre, ses frères se sont plaints de passer pour des cons. Hein. Et il leur a dit qu'il n'y avait aucune vengeance, mais ça leur a quand même fait les pieds. Son second film a eu moins de succès, mais c'est normal, il y avait moins de névroses. Et c'est plutôt bon signe pour lui, parce qu'au bout d'un moment, des névroses, ça plombe une carrière. Woody Allen en sait quelque chose. Aujourd'hui, on peut dire que Guillaume va mieux. Alors qu'il pourrait galérer dans sa vie affective et emmener sa mère sur tous les tapis rouges comme Leonardo DiCaprio, il est marié à une femme qu'il aime et il est père d'un ado. Il dit que sa vie est totalement hétérosexuelle mais que tout peut changer demain. Sa femme appréciera. Quant à sa mère, elle raccroche toujours en lui disant « Je t'embrasse ma chérie ». Mais ça vaut mieux, parce que si elle commence à le considérer comme un garçon à 50 ans, il serait obligé de refaire tout son parcours dans le sens inverse. Et alors là...
Merci beaucoup Jean-Luc.
Mais je vous en prie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont fait de leur mère une héroïne pour retrouver deux garçons dont on a fait les héros, en quelque sorte, de cette émission.
Oh.
David Kessel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un mot de passe.
Du mot de passe, en
général. Du mot de passe, oui.
Oui. Qui a fait le premier mot de passe ?
Oui, qui ?
Dans la vraie vie et dans les ordinateurs.
Oui.
Je dirais les deux.
Ah, oui. Vous savez qui a fait le premier mot de passe dans la vie ?
Dans la vie, c'est un petit peu plus difficile. Ah, mais voilà. Sur les ordinateurs, on sait mieux.
Voilà, voilà. Hein, je préfère soyez oui. honnête. Hein. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque aujourd'hui. On remonte au 19e siècle pour découvrir l'arrivée de cette statue de femme, on pense du moins, à l'entrée du port de New York, inaugurée en 1886 et offerte avec un peu de retard par la France pour fêter les 100 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis, la statue de la liberté qui a donné naissance non pas à un enfant, mais à un nouveau mot qu'on utilise encore, Gavin.
Exactement, Stéphane. Et pourtant, cette arrivée dans le port de New York, eh bien, elle n'a pas été de tout repos. À l'origine, cette statue, elle a été imaginée par Auguste Bartholdi, qu'on connaît pour son Lion de Belfort, à Belfort, ou alors au milieu de la place d'Enfer Rochereau, à Paris. Il a eu l'idée de cette statue qui serait érigée à l'entrée de l'embouchure au début du canal de Suez. C'était ça, la vraie idée. Il avait 22 ans, il était là-bas en 1856. Il s'inspire à l'époque du Colosse de Rhodes, rien que ça, une des sept merveilles du monde, aujourd'hui disparue. Et il intitule alors son projet « Progrès, l'Égypte apportant la lumière à l'Asie ».
Ouh, un peu mégalo quand même le monsieur.
Oui, un petit peu quand même.
Enfin, il a abandonné le projet finalement.
Bah, pour le canal de Suez, oui. Mais parallèlement, en France, il y avait un homme politique à l'époque, il s'appelait Édouard Lefebvre de Laboulaye, et lui, il a voulu célébrer la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. Il a voulu célébrer la fin de l'esclavage et renouveler en quelque sorte l'amitié entre les deux peuples. Et c'est là que le projet de statut de Bartholdi est relancé. Alors, Bartholdi n'a rien abandonné de son côté, il a même continué à travailler. Il s'est inspiré du tableau d'Eugène Delacroix, « La liberté guidant le peuple ». La statue qu'on offrira aux États-Unis prendra alors le nom de « Statue de la liberté ». Et pour imaginer son modèle, il s'inspire de sa mère, tout simplement. Mais cette statue sur les plans, elle fait 46 mètres de haut. Alors, ça n'a pas été simple à organiser techniquement, vous l'imaginez, ni financièrement d'ailleurs.
Ah oui, mais la France l'a offerte aux États-Unis, c'est donc la France qui l'a financée?
En partie, Stéphane, parce que les travaux commencent en 1875. Le montage de la charpente métallique a été réalisé dans les ateliers de la maison Gagé et Gauthier. Gagé, G-A-G-E-T, se précise. D'abord sous la direction de Viollet-le-Duc, qui décède en cours de route, confie ensuite à un jeune homme, un certain Gustave Eiffel, qui n'a pas encore réalisé sa tour à l'époque, considéré comme un brillant ingénieur, concepteur de ponts, hein, c'était son premier job, on va dire. Plusieurs répliques de la statue vont être réalisées. La statue est exposée dans plusieurs endroits, notamment au parc Monceau, pour lever des fonds, grâce au comité de l'Union franco-américaine, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle est aussi financée par souscription populaire, puis entièrement démontée, avant d'être expédiée à bord de la frégate l'Isère. Mais si elle est offerte aux Américains, comme vous le précisiez Stéphane, les Américains n'ont pas de quoi payer le socle pour ériger cette statue.
Bah écoute, combien alors? On va peut-être s'arranger.
Ouais, il coûte 125 000 $. Ah. Mais depuis, c'est bon, n'ayez crainte, ils ont trouvé une solution. Merci d'y penser, mon cher Jean-Luc. Là aussi, des donateurs privés, des entreprises, des particuliers vont participer au financement de ce piédestal, conçu en granit du Connecticut, j'aime bien la précision. Les pièces détachées attendent un an avant d'être assemblé. Il faut encore 7 mois pour tout riveter avant l'inauguration, le 28 octobre 1886, soit 110 ans après la déclaration d'indépendance des États-Unis. La statue est inaugurée en grande pompe, comme on l'entend. Sa tête est enveloppée d'un drapeau bleu, blanc, rouge que Bartholdi lui-même vient retirer. On note à l'origine qu'elle est couleur cuivre, rouge, orangé. Ce n'est qu'ensuite qu'elle va s'oxyder hein, pour devenir verte comme on la voit aujourd'hui tout le temps. Notons aussi au passage l'absurdité de la situation. Alors qu'on célèbre une femme, les femmes ne sont pas autorisées à célébrer l'événement. Mais ce n'est pas tout.
Bah, j'espère bien, Gavin, que vous nous aviez promis un mot qui est lié à cette histoire.
J'y viens, Stéphane. Pour financer la statue, eh bien, le comité de l'Union franco-américaine dont je parlais avait fait fabriquer par la maison de plomberie et de chaudronnerie Gagé et Gauthier des petites répliques de la statue de la liberté. Et le jour de l'inauguration, les participants demandent « Avez-vous votre gagé ?» qui devient, par déformation phonétique, « Do you have your gadget ?» Et c'est ainsi qu'est né et resté le mot « gadget » du nom de cette entreprise qui a fondu la statue de la liberté.
Ça alors, hein?
Oui, ça
c'est un fun fact.
Fun fact.
Mes aïeux, quelle époque. Hein. Merci Gavin.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Gavin Clément-Ruiz et surtout avec vous, David Castello-Lopez.
Oui, alors les mots de passe dans la vraie vie, il remonte probablement à la nuit des temps. C'est dur de savoir qui était le premier. Parce que quand on y pense, c'est assez logique. parce que c'est une manière très intuitive, le mot de passe, de différencier ses ennemis de ses amis. Dans la vie, vous pouvez faire semblant de beaucoup de choses. Hein, vous pouvez vous habiller pareil que quelqu'un, vous pouvez vous déguiser en cette personne, vous pouvez parler pareil que lui, vous pouvez faire tout pareil, mais vous ne pouvez pas faire semblant de connaître un mot de passe si vous ne le connaissez pas. Par exemple, Stéphane, si je vous demande quel est le mot de passe, vous me répondez ? Ben voilà, vous l'avez pas et donc je vous tue. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Sauf si un traître m'a donné le mot
exactement.
De passe. Je m'introduis chez vous et là c'est moi qui vous tue.
Tout à fait, tout à fait.
Ça arrive.
Il faut qu'il y ait un traître.
Il y a quand même beaucoup d'amitié dans cette équipe. Hein.
c'est chaleureux.
Il y a un traité du 4e siècle avant Jésus-Christ écrit par un monsieur grec qui s'appelait Énée le tacticien. Que j'ai lu en entier quand j'étais à la fac. Si, tellement je suis cool. Et qui parle déjà de mots de passe. Mais bien sûr, l'histoire moderne des mots de passe, elle commence quand les mots de passe sont devenus, non plus des mots de passe, mais des codes confidentiels. Un code confidentiel, c'est très légèrement différent dans le principe même d'un mot de passe. Parce qu'un mot de passe, c'est fait pour être connu de tous les gens à l'intérieur d'un groupe ou au moins de deux personnes pour communiquer. Tandis que le code confidentiel n'est fait que pour être connu de vous-même. C'est l'équivalent d'une clé ou de la combinaison d'un coffre. Et cette histoire-là, celle des codes confidentiels, elle est née bien sûr avec les ordinateurs. On s'en doutait un petit peu. Dans les années 60, au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, je vous laisse boire un petit peu mon accent quelques secondes avant de continuer.
Ça fait du
c'est
bien.
Bon, voilà. Alors, le Massachusetts Institute of Technology, l'un des endroits au monde où il y a le plus de gens intelligents au mètre carré. Là, il y avait plein de recherches qui se faisaient grâce à un système informatique partagé qu'on appelait le CTSS pour Compatible Time Sharing System. Vous prenez système de temps partagé compatible. Et c'est considéré comme la première étape, ce système, de plein de choses informatiques qu'on connaît aujourd'hui encore, à commencer par les emails, les messages instantanés, etc. Le CTSS, c'était un ordinateur qui était utilisé par plein d'ingénieurs et chacun de ces ingénieurs avait des documents dessus. Et donc, il a fallu trouver une façon de faire en sorte que ces documents soient accessibles uniquement à la personne qui les avait créés. Ça devient très familier, ça nous devient très familier ce principe. Et c'est probablement là, donc, autour de 1965, que le principe du code confidentiel informatique a été inventé par un ingénieur qui s'appelait Fernando Corbato. Voilà, je vous laisse apprécier aussi mon espagnol. Un monsieur dont le visage avait l'air incroyablement avenant. J'ai vu des photos de lui et qui est mort il y a peu de temps, à 93 ans. Et fun fact, parce qu'il y en a, immédiatement après l'invention du mot de passe informatique a été inventé le vol de mots de passe informatique. Dans le laboratoire du MIT, il y a un doctorant qui a réussi à mettre la main sur tous les mots de passe et il les a utilisés pour faire ce qu'il voulait sur le gros ordinateur. Alors bien sûr, ces dernières années, les mots de passe ils sont devenus centraux dans nos existences et j'aimerais donc terminer cette chronique par un certain nombre de remarques que, dans le milieu du journalisme, on appelle servicielles.
vous allez nous rendre service.
Exactement. C'est quoi vos mots de passe ? Vous pouvez nous dire un ancien mot de passe que vous n'utilisez plus peut-être ?
Jean-Luc, je t'aime.
Jean-Luc, je t'aime.
Ouais, parce que j'ai un problème d'affection, donc d'écrire ça me faisait du bien.
Très bien. Matin.
Nom, prénom, date de naissance, classique.
Oui, moi aussi.
Ouais. Moi, chez moi, le mot de passe, quand on veut se connecter à mon Wi-Fi, c'est « David est mieux que moi ». Voilà, donc vous êtes obligé de taper cette phrase-là si vous voulez avoir accès à mon Wi-Fi. Mais ce n'est pas des super mots de passe. La vraie question, c'est est-ce que c'est bien de choisir un mot de passe compliqué ? Évidemment, intuitivement, on se dit évidemment que oui.
Mais non, parce qu'on les oublie.
Et on n'a pas complètement tort. Si vous choisissez un mot de passe de type dièse, 2, 3, esperluette, E majuscule, point virgule, arrobase, dièse, J majuscule, J minuscule, H, O, P, P, 0, 9, dièse, bon, et que vous en trouvez un différent à chaque fois que vous devez vous inscrire quelque part, eh bien, vous serez super bien protégé. Le problème, c'est que cette théorie, elle ne prend pas en compte la psychologie humaine. Et en particulier, le fait qu'on ait des gros flemmards. Quand on demande aux gens de choisir des mots de passe très compliqués, ils ont tendance à faire deux choses. Un, ils le notent sur leur ordinateur. Et deux, ils choisissent toujours le même. Et ces deux choses, c'est à peu près les pires choses qu'on peut faire en termes de choix de mots de passe. Parce que si il y a un hacker qui vient dans votre ordinateur, non seulement il va aller voir vos mots de passe, et en plus, il va pouvoir avoir accès à tout. Donc face à ça, il y a plusieurs chercheurs qui préconisent de choisir des mots de passe qui sont à la fois faciles à retenir pour nous et compliqués à hacker. Par exemple, pour vous connecter au site de votre banque, vous pouvez choisir le mot de passe « L'argent est l'une de mes choses préférées !» vous faites une phrase, elle a du sens pour vous, mais elle est très très dure à trouver. Et mieux encore, ce qui marche encore mieux du point de vue de la sécurité, c'est de mélanger les langues. Pour le code, par exemple, sur le site internet de la crèche de vos enfants, ouais. Et ben, un bon mot de passe, c'est quelque chose du genre « J'adore mes deux niños, mais il y en a clairement un que je love plus que l'autre ». Voyez,
mais pourquoi vous avez des mots de passe aussi longs,
vous? Mais vous pouvez, vous voyez, mais ça se trappe très
pourquoi
vite.
Pourquoi vous avez des mots de passe dans les crèches d'enfants? C'est
ça. Genre, j'ai pas d'enfants, donc a fortiori pas de crèche.
Ah, c'est
mais,
pour ça.
Mais j'avais cette petite phrase à dire sur les enfants des gens. Il fallait bien trouver une situation qui aille avec, donc c'est celle que j'ai trouvée.
Très bien, merci beaucoup David. Prie. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui ont vécu une idylle qu'on leur interdisait. La princesse Isabelle de Bourbon-Parme, tombée en amour pour sa belle-sœur, puis l'actrice Arletty et sa passion dévorante pendant l'occupation pour un officier nazi. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une chanteuse, une star même, qui a vécu une idylle que sa famille refusait, au début en tout cas.
Oui, Céline Dion, qui n'est tombée amoureuse ni de sa belle-sœur ni d'un nazi, mais de René, qui était un poil plus âgé qu'elle. Et pour sa famille, ça a fait le même effet.
J'ai hâte que vous nous racontiez tout ça. À lundi, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.